Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 12 juillet 1990.
Pourquoi Dieu a-t-il choisi la souffrance comme moyen de nous sauver et de nous sanctifier? Comment le comprendre dans un regard de sagesse? Le philosophe peut-il déjà en comprendre quelque chose, ou cela ne peut-il que le scandaliser? Évidemment, c'est une question qui n'est pas, ou qu'elle est quand même dans le sujet, étant donné que la souffrance vient du corps. Alors, Dieu ayant choisi le mystère de l'incarnation pour nous sauver, aurait-il pu prendre la joie pour nous sauver, puisque le corps peut connaître aussi la joie, l'amitié? Pourquoi prend-il la souffrance? Alors, il faut comprendre que d'abord, le mystère de la rédemption implique une satisfaction. Premier grand théologien qui dit ça, saint Anselme. Donc, une satisfaction qui va se traduire dans un holocauste. Satisfaire, c'est, par rapport à l'injure du péché, réparer l'injure du péché. L'injure du péché, à cause de l'orgueil, fait qu'on ne respecte pas l'autorité de Dieu, la majesté souveraine de Dieu. On ne respecte pas le Père dans son commandement, dans l'exercice de son autorité. Alors, comment réparer l'injure faite à Dieu, faite au Père? Il faut donc s'humilier. C'est par l'humiliation, par l'humilité qu'on répare l'orgueil. Une humilité à l'égard de quelqu'un qu'on reconnaît comme notre Créateur. Il faut donc que l'humilité se traduise à travers une adoration. Et une adoration plénière implique l'holocauste. L'holocauste peut se faire par, comme dans l'Ancien Testament, en offrant des animaux, en se servant de notre avoir. On offre des animaux très précieux. Le taureau. Mais comme cette injure touche l'autorité paternelle, qui est une autorité d'amour, il faut réparer au niveau de l'amour. Et donc, une adoration qui exprime l'amour, une adoration d'amour en esprit et en vérité, qui fait que l'holocauste ne peut se réaliser vraiment qu'en s'offrant soi-même. Mais j'essaie de préciser, dans l'ordre de la sagesse de Dieu, C'est le Christ qui s'offre lui-même. L'offrande la plus parfaite, c'est une offrande qui implique le sacrifice, l'immolation. C'est l'offrande par excellence. Et l'immolation implique cette souffrance. Comme c'est réalisé par rapport à l'autorité paternelle et amoureuse, aimante du Père. Il faut que cet holocauste soit le plus total possible. Et donc, d'une certaine manière, implique toutes les morts. C'est ce qui se réalise dans l'holocauste du Christ. Toutes les morts sont présentes. La mort de l'amitié, la trahison. La mort de sa noblesse au plan religieux. On le considère comme un blasphémateur. Il est dégradé de son titre de citoyen. On le considère comme un esclave. Et tout dans la souffrance la plus grande, la crucifixion. Et c'est parce que justement il s'agit de réparer une réparation qui n'est pas seulement une réparation de justice, mais une réparation qui regarde l'amour du Père pour sa créature, pour ses benjamins. Alors, c'est la satisfaction et la satisfaction aimante qui répare la blessure faite à l'amour du Père. Et c'est pour ça que la souffrance est présente, parce qu'elle manifeste le mieux l'amour qu'on a pour quelqu'un. Il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir sa vie pour celui qu'on aime. Amour à l'égard du Père en le glorifiant. Amour à l'égard des hommes en s'offrant pour eux. Et une mort violente, c'est la mort par excellence. Une mort enveloppée de souffrance exprime mieux la prédilection d'amour qu'on a pour quelqu'un. C'est dans ce sens-là que la souffrance qu'un corps humain est capable de bâtir, de vivre, sera au maximum dans l'holocauste du Christ. Et alors, la souffrance est liée à l'amour. Pour manifester la prédilection et pour faire que le sacrifice soit le plus parfait possible. Les deux, satisfaction et manifestation d'amour. Et là, la souffrance est utilisée pour cela. Mais ce n'est pas une souffrance sadique qui est pour le plaisir de la souffrance. C'est une souffrance toute transformée par l'amour. C'est une souffrance, vous voyez, portée par l'amour, puisqu'elle manifeste l'amour, utilisée par l'amour et portée par l'amour. Je crois que c'est la grande raison dans l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est pour que l'amour soit exercer ou s'exerce de la manière la plus forte qui soit et la plus manifeste qui soit. Le corps du Christ pouvait, en raison de la perfection de ce corps et en raison de l'intensité d'amour de l'âme du Christ, Ce corps pouvait souffrir en intensité comme pas un autre corps n'a souffert. Et ne souffrira. C'est du côté de l'intensité de la souffrance qu'il faut regarder le mystère de la croix du Christ. Et l'intensité de la tristesse. La tristesse dans son âme. Et comme l'âme est liée au corps dans la tristesse, regarde en premier lieu l'âme et la souffrance regarde en premier lieu le corps. Et comme je disais tout à l'heure, si l'âme souffre, si l'âme est triste jusqu'à la mort, il y a une répercussion sur le corps. Pas possible autrement. Le corps du Christ épuisé par l'agonie, qui est le mystère de la tristesse. Et le corps du Christ épuisé par la souffrance à la croix. Un double poids dans l'amour du Christ pour son Père, tristesse et souffrance. Ceci se comprend dans l'intention même de la sagesse de Dieu. Il veut l'incarnation pour la rédemption. Et la rédemption implique satisfaction et salut. Manifestation de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Tu as tellement aimé le monde qu'il a offert son Fils. Donc il y a la grande manifestation de l'amour du Père pour les hommes. Pour manifester pleinement cet amour, la croix douloureuse était le moyen le plus adéquat jusqu'à la blessure du cœur. Alors, la question seconde, le philosophe peut-il déjà en comprendre quelque chose ? Oui. Le philosophe peut comprendre que la souffrance acceptée par amour, alors c'est le philosophe dans l'éthique religieuse, pas dans l'éthique humaine tout court. Ben, si je distingue trois niveaux de l'éthique, je rappelle pour ceux qui connaissent moins bien, trois niveaux de l'éthique. L'éthique fondamentalement humaine. C'est l'éthique qui se fonde sur l'amour d'amitié. L'éthique religieuse qui est encore humaine, mais d'une manière ultime, et qui se fonde sur l'adoration. Puis l'éthique chrétienne, le philosophe qui va aller jusqu'au bout de sa philosophie, doit distinguer dans le monde dans lequel nous sommes, dans notre Europe et en Amérique aussi, où le christianisme a eu une telle influence qu'il faisait toute une culture, même si la laïcisation se fait sentir de plus en plus, cette laïcisation est anti-chrétienne. Elle n'existerait pas dans l'Inde. C'est pour ça qu'elle va si loin. C'est la dégradation de la culture chrétienne. Corruption, optimi, pessima. Et la laïcisation n'est même plus une éthique fondamentalement humaine. Ce n'est plus une éthique. dépend du gendarme. On met des amendes. Il n'y a plus. Regardez la manière dont on parle du point de vue moral, la morale sexuelle, le point de vue du mariage, tout ça. C'est même plus humain. Dégradation de l'humain. Je parle de la laïcisation. Mais quand on parle d'une morale laïque, on doit parler d'une morale humaine, mais pas laïque. Regardez, parce que la morale n'est pas laïque. Elle doit être ouverte à un aspect religieux. Or, la morale laïque se ferme du point de vue religieux. Je dis ça rapidement, hein, pour que vous y réfléchissiez. N'est-ce pas ? Alors, il faudrait comprendre comment l'adoration, parce que c'est par l'adoration, comment l'adoration peut, qui est un acte d'amour, c'est l'acte d'amour le plus fondamental à l'égard de Dieu créateur, de Dieu Père. Comment l'adoration, en raison de l'amour, peut assumer la souffrance dans un holocauste d'amour. Donc c'est par là que le philosophe peut comprendre, parce que le philosophe doit comprendre l'adoration. Une philosophie d'éthique religieuse et philosophique. Et même quand je regarde l'éthique chrétienne, je regarde le climat, le milieu dans lequel je suis. Je pourrais regarder d'autres éthiques religieuses. Vous voyez ? L'éthique religieuse de l'islam. Et regardez les deux. Elle serait d'ici. Le philosophe doit s'intéresser à toutes les traditions religieuses. Il n'a pas le droit de dire ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas le droit. Si le philosophe s'intéresse à l'homme, il s'intéresse à tout ce qui intéresse l'homme. Or, les traditions religieuses intéressent l'homme. C'est pour ça qu'il s'intéresse à la culture. Parce que ça intéresse l'homme. Donc il s'intéresse à une culture qui est laïque. Pour essayer de comprendre si elle est encore humaine. Ou si elle est un tout petit peu en dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire du niveau du corps de l'homme, dans le corps. Et c'est évident qu'on ne sait plus très bien ce que c'est que le philosophe aujourd'hui, n'est-ce pas ? On ne sait plus très bien. On croit que la philosophie, c'est connaître ce que les autres philosophes ont dit. C'est un dégradé de la philosophie. Le philosophe cherche la vérité. Et la vérité par rapport à l'homme, et toutes les dimensions par rapport à l'homme. Alors vous voyez comment, par l'adoration, la souffrance peut être assumée. Puisque l'adoration implique l'offrande de sa vie à Dieu. L'offrande de tout ce qui vient limiter mon épanouissement. Évidemment, c'est surtout par rapport au mystère de la croix, en éthique chrétienne. Mais là, il y a un biais, parce que la souffrance, vous comprenez, la souffrance touche le corps et diminue le corps. C'est une diminution du corps. Mais comme la personne humaine, religieuse, peut regarder que le corps demande d'être assumé par l'âme, on pourra comprendre et être offerte à Dieu par l'âme dans l'adoration. On peut comprendre comment la souffrance peut permettre à l'amour d'aller plus loin. Parce que l'amour est au-dessus, au-delà de la tristesse et de la joie, de la souffrance et de la jouissance. L'amour est au-dessus. L'amour spirituel. Donc il peut se servir des deux. il est dans une éthique purement, fondamentalement humaine de l'amour d'amitié, je pourrais, d'une certaine manière, hein, comprenez bien, en raison de l'amour que j'ai pour mon ami, je peux être fidèle à mon amitié en dépassant la souffrance, en dépassant certaines tristesses, et les porter, les supporter en raison de l'amour que j'ai pour mon ami. Vous savez, ce qu'on dit habituellement, du moins anciennement, quand les gosses n'aimaient pas la soupe et qu'ils avaient de la peine à prendre leur soupe, alors on disait une cuillère pour maman, une cuillère pour papa, une cuillère pour l'aîné, et ainsi de suite. Hein, vous voyez, petite souffrance, ils n'aiment pas la soupe. Donc on assumait la petite souffrance, le petit truc désagréable, quoi, par un amour. Et ça, c'est l'éthique humaine, fondamentalement humaine. Hein. Il n'y a rien de religieux là. Prendre une cuillère pour maman, c'est pas religieux. C'est humain. C'est l'amitié, l'amour d'amitié et le respect. Donc là vient un petit signe, vous voyez. Et c'est vrai, quand on aime quelqu'un, on pourra supporter cette souffrance pour moi. Et je sais que cette souffrance permettra à ton cœur de dépasser certains égoïsmes. C'est vrai. Certains égocentrismes. Vous voyez, la jouissance nous replie sur nous. La douleur peut nous replier sur nous, mais la douleur peut nous ouvrir à un don plus généreux. Et ceci parce que l'amour est au-delà de la souffrance et de la joie. Et là, il y a toute une piste de recherche qui est très intéressante. Mais ça, c'est pour demain. Faut pas l'oublier. C'est une question philosophique. Alors, le péché originel, j'ai pas tellement envie d'y revenir. Parce que si j'y reviens, ça prendra tout le temps. Et c'est très important, point de vue théologique du corps. Ça, c'est bien évident. Que Dieu se serve du corps et de la propagation de la vie humaine. Nous faire comprendre la solidarité fondamentale des hommes entre eux. Le fondement naturel du corps mystique. Il y a une solidarité terrible. Mais comme il y a une philanthropie. J'aime mon prochain. J'aime celui qui est à côté de moi parce qu'il est un homme. Il y a une philanthropie. On est liés dans l'humanité. Pour le bien comme pour le mal. Vous voyez, pendant la guerre, on sent ça très fort. Dans les guerres. L'ennemi avance, on se soude. Vous voyez, c'est, on se tient là au-dessus de toutes les divergences. Tandis qu'au contraire, si on est dans un trop grand bien-être, oh les rivalités. Oh là là là. Tout de suite, les jalousies, les rivalités, tout ça s'accumule parce qu'on est dans un trop grand bien-être. On serait dans une lutte. L'ennemi serait là immédiate. Oh, peu importe, on dépasse tout ça. Mais c'est l'union sacrée, c'est qu'on disait. À ce moment-là, tous les partis politiques, l'ennemi est là aux portes. Et ça... ça fait comprendre quelque chose de très intéressant et de très grand. Oui, ça fait comprendre que la souffrance creuse et permet un amour plus grand. sauver, d'être plus unis. Alors ça, vous voyez, c'est peut-être un moyen, une petite propédeutique pour comprendre cette solidarité. Notre Père commun, notre grand-père commun, et notre Père commun, notre mère commune, notre grand-mère commune, ils ont péché. Comme ils avaient une qualité unique de chef de file, on bâtit avec eux, on est lié avec eux. C'est une volonté de la sagesse de Dieu. Pour nous faire comprendre cette solidarité extraordinaire, quand on pense un peu à la solidarité humaine. On a été tout petit, au point de départ, premier moment, de l'autre. Et on était totalement dépendant de notre mère. Une dépendance radicale, fondamentale. C'est Dieu qui a voulu ça. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça? Pour une sorte de solidarité. Mais radicale. Alors si vous remontez, ah oui, vous arrivez forcément à Adam et Ève. Et métaphysiquement, vous voyez, Adam et Ève sont plus proches de nous que nos propres parents. Hein? Mais il faut se mettre sur le point de vue métaphysique, hein. Point de vue métaphysique, dans la perspective de la foi. Si j'éclaire la foi au blanc, dans une lumière métaphysique, je peux dire qu'Adam et Ève sont plus proches de nous que nos propres parents. Parce qu'ils sont chefs de file. Le premier dans le genre est mesure du genre, et cause du genre. Alors ça nous aide. Ça sert de tremplin, si vous voulez, à comprendre que oui, c'est vrai. La faute d'Adam et Ève a été un traumatisme effrayant. Saint-Augustin va très très loin dans ce traumatisme. Très très loin. Il dit que tout l'univers s'en est ressenti. Et c'est pas absolument impossible. Étant donné la place voulue par Dieu d'Adam et Ève, le sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme. Donc il donne un sens à tout notre monde physique. Tout notre monde physique était en attente de l'homme et de la femme, sans le savoir, dans des gémissements. Et dès que l'homme et la femme ont été créés dans notre univers, tout notre univers a pris son sens. Alors, le désordre d'Adam et Ève modèle ce qui finalise tout, ce désordre causé par l'orgueil, cette désobéissance à une secousse. Mais les secousses apocalyptiques sont moindres que la secousse. Immaculée, mais parce qu'elle est immaculée, elle est plus femme que n'importe quelle autre femme. L'Immaculée la rend plus sensible, plus aimante, plus capable d'être source de vie. Et donc, elle est dans la descendance d'Adam et Ève. Quelque chose d'étonnant. C'est dire, quand Dieu punit Ève, ta descendance, arrivée partie de la descendance, il crasera la tête du serpent. Et c'est dans la descendance d'Adam et Ève, le chef-d'œuvre, le fleuron, ce qu'il y a de plus beau, et Marie, source pour l'incarnation, et mère du Sauveur, de la rédemption. Elle coopère dans la souffrance de son cœur. Et comment le mystère de la souffrance du Christ va s'étendre en Marie et dans toute l'Église jusqu'à nous. Soyons épargnés, parce qu'il est notre frère, Jésus. Alors il sait combien c'est difficile pour nous de porter la souffrance. Il a été l'avocat pour nous, le premier paraclet. Et c'est là où est le premier paraclet. Il demande au Père que le calice symboliquement représente la croix telle qu'elle a existé, selon la volonté du Père. C'est-à-dire la croix liée au mystère de la compassion. Et le Père a voulu que le calice se réalise. Et si le Père a voulu cela, c'est pour que Marie soit plus unie au cœur de son Fils bien-aimé. C'est la tendresse de Jésus pour la femme. C'est la tendresse du Père pour la femme. Elle est plus capable de souffrir que l'homme. C'est un fait, ça. Il faut entendre de temps en temps, je me souviens, c'était de Lausanne à Fribourg, le petit train qui s'arrêtait à toutes les choses dehors, qui ramenait alors toutes les braves vaudoises. Ils veulent leur rendre les entendre, parlant de leur mari. Oh, ce qu'il est douillé, ce qu'il est douillé. Un petit peu de nous, nous savons ce que c'est que la souffrance. Et là, on entendait ces femmes parler. C'était extraordinaire d'entendre ça. Et c'est très vrai. Tu as choisi la femme pour être la plus unie de la souffrance du cœur de Jésus. Et la femme mère. Vous voyez, l'homme a beaucoup plus de peine à accepter la souffrance et la porter. Beaucoup plus. C'est un fait, ça. Peut-être parce que justement, le point de vue de l'amour est plus développé, normalement, chez la femme. L'épouse et la mère, c'est plus développé que chez l'homme. L'homme, il veut développer son intelligence pour moins souffrir. C'est bien évident. Développement de l'intelligence au point de vue sagesse philosophique à la fois peut permettre plus de souffrance et peut permettre moins de souffrance. Parce que la vitalité part du côté de cette sagesse philosophique. Et si la vitalité part là, il y a une capacité moindre d'aimer. Ça, c'est le grand dilemme, ça. Mais on peut dire aussi que le développement de l'intelligence permet à l'amour d'être plus limpide et plus pur, et donc de nous rendre plus vulnérables. Vous voyez, c'est vrai que ça peut jouer des deux côtés. La plupart du temps, comme l'homme a très peur de souffrir, il met tout pour se défendre. Regardez le mystère de la résurrection de la chair. L'Eucharistie est le viatique. Quand vous regardez dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, quand Jésus prophétiquement annonce l'Eucharistie, en annonçant l'Eucharistie, il annonce la résurrection de la chair. Le mystère de la résurrection est lié au mystère de l'Eucharistie. Ou plus exactement, le mystère de l'Eucharistie conduit au mystère de la résurrection de la chair. Alors, essayons au moins de nous approcher du mystère. Jésus, dans sa sagesse, de fils bien-aimé du Père veut que son testament, sa dernière volonté d'amour, que son testament se réalise et se manifeste à travers le sacrement de l'Eucharistie, à travers l'institution de l'Eucharistie qui fonde le sacrement. Or, que représente cette institution de l'Eucharistie? Jésus veut donner sa chair en nourriture. Life.
essayer, dans la foi, de saisir cela. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui nous fait comprendre ce que c'est que le cœur de Jésus. C'est ça qui nous fait comprendre ce qu'est le Christ pour nous. D'où l'amour qu'il a pour le Père, il nous le donne. Parce qu'il ne peut rien nous donner de plus cher que ça. Il ne peut rien nous donner de plus précieux que l'amour qu'il a pour son Père. En Fils bien-aimé. Et donc, tout l'amour qu'il a pour le Père, il nous le donne. Il veut que ce soit pour nous. Alors, comment exprimer ça? La croix montre d'une manière éblouissante pour le croyant. Au-delà du scandale et de la folie, pour l'homme, pour la sensibilité humaine et pour la raison humaine, la croix nous montre d'une manière éclatante qu'il aime le Père plus que tout ce qu'il a, que sa vie temporelle, et qu'il nous aime plus que sa propre vie terrestre. Et c'est pour ça qu'il l'offre pour nous. Mais Jésus veut nous faire comprendre que ce don qu'il nous fait est un don tel qu'il est capable de nous transformer de l'intérieur et de réaliser entre lui et nous une unité semblable à celle qu'il a avec le Père. Et pour nous faire comprendre cela, il invente l'institution de l'Eucharistie. C'est une invention de la sagesse de Dieu. Réalise cette consécration papale. Le pain n'est plus du pain, il est le corps du Christ, des apparences de mort. Il y a transsubstantiation. Et c'est la même chose pour le vin par rapport au sang. Voulu nous donner ce double langage, cette double révélation, le corps et le sang, et nous faire comprendre que le corps du Christ offert au Père à la croix, que le corps du Christ lacéré par toutes les blessures, brûlé par le feu d'amour, que le corps du Christ est pour nous un véritable pain. Alors c'est là où je voudrais dévoiler, montrer ce nouveau regard sur le corps. Sur le corps du Christ, sur le corps du Christ offert en holocauste. Parce que c'est le corps du Christ offert en holocauste qui est donné comme pain. Alors qu'est-ce que c'est que le pain? Oui. Essayez de trouver le lien qui existe entre le pain et le corps. Il y a un corps offert en holocauste d'amour. Pas n'importe quel corps. Qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, dans un pays de céréales, comme pour la Judée, comme pour la Palestine, c'est l'aliment par excellence, fruit de la terre et du travail des hommes. C'est l'œuvre par excellence du travail de l'homme. philosophiquement, on peut le montrer. L'homme travaille toujours pour du pain. C'est fondamental. Et quand l'homme travaille pour autre chose que pour du pain, il y a une déviation. C'est très intéressant au point de vue philosophique, philosophie du travail, de voir ça. Vous voyez ? Parce que l'œuvre la plus utile, c'est l'aliment. On travaille pour nourrir les gens, quoi. D'une façon plus ou moins directe. Alors on peut travailler aussi pour la beauté. Oui, c'est vrai. Pour l'agréable. Mais c'est pas fondamental. Vous commencez par nourrir. Parce que votre affamé n'a pas d'oreille. Donc votre affamé n'a pas d'yeux pour regarder la beauté. Ah, regardez cette beauté. Oui, j'ai faim. Et vous n'avez pas envie du tout de regarder quelque chose de beau quand vous avez faim. On voit bien ça. Vous voyez, Esaü, hein, le plat de lentilles. Et c'était pourtant le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'était quelque chose. L'aliment, le pain, l'aliment par excellence, l'aliment fondamental, l'aliment, c'est le serviteur par excellence. Alors vous commencez à voir comment Jésus se sert de son corps pour manifester l'amour à l'égard du Père et de nous. Et donc, par rapport à nous, pour nous faire comprendre son amour dans ce qu'il a de plus radical, il se fait serviteur. Et le serviteur par excellence, qui est le pain, il se donne comme pain pour montrer que son amour pour nous est un amour total. Quand on aime quelqu'un, on devient serviteur de cette personne. C'est le signe de l'amour. Vous pouvez tout demander à un ami. Vous ne pouvez pas tout demander à un serviteur. On met des gants. Voilà. Puis ça fait partie du contrat. Si c'est pas partie du contrat, ça ne va plus. Tandis qu'un ami, il n'y a pas de contrat. C'est l'ami. Tu es mon ami, je peux tout te demander. Je ne demanderai jamais ça à quelqu'un d'autre. Jésus pour nous montrer son amour d'amitié. Donne son corps sous les apparences du pain. Pour nous faire comprendre combien son corps est tout brûlé d'amour. Et se sert du corps comme signe, comme instrument d'amour. Pour être serviteur par excellence. Déjà lavement des pieds, Jésus se sert de son corps pour être serviteur par excellence. Mais il va plus loin dans l'institution de l'Eucharistie. Il se sert de son corps pour manifester combien il nous est donné en étant le serviteur par excellence. Il y a, dans cette institution de l'Eucharistie, cette double consécration du corps et du sang. Alors il faudrait regarder ici le lien entre le sang et le vin. Oui, c'est quand même très... Ça relève de la sagesse de Dieu. Pour le croyant, ça relève de la sagesse de Dieu. Et comme c'est le testament... C'est là où la sagesse de Dieu se manifeste le plus et va aller le plus loin. Et donc il y a quelque chose pour nous d'assez extraordinaire. On pourra creuser indéfiniment ce mystère. On n'arrivera jamais à épuiser toute l'intensité d'intelligence divine, de sagesse qu'il y a dans ce Jésus-Christ. est servi même en dehors du repas, juste après.
Viatique.